Bonjour à tous, je suis très content de pouvoir ouvrir la parole de Dieu avec vous ce matin, de pouvoir la méditer et voir ce qu'elle a encore à nous apporter, à nous dire. Et avant de commencer, j'aimerais aussi remercier tout particulièrement tous ceux qui prient, pour ceux qui apportent la prédication dimanche après dimanche, parce qu'il s'agit d'une lourde responsabilité. Et sans les personnes qui prient derrière, nous ne pourrions rien faire. Et je voudrais aussi remercier en particulier le groupe de maison, dans lequel nous nous retrouvons donc une fois tous les 15 jours à Wittenheim. Et je sais que les frères et sœurs aussi ont prié, et en même temps, j'ai eu beaucoup d'échos en préparant ce message par rapport à ce que nous avons pu étudier dans le livre de l'Exode aujourd'hui. Donc c'était aussi une grande bénédiction, et je voudrais vous remercier aussi pour cela. Alors, pour la période estivale, nous suivons un certain nombre de psaumes pour la prédication, et aujourd'hui nous allons parcourir le psaume 97. Nous ne connaissons pas l'auteur de ce psaume, mais il semblerait que les psaumes 95 à 100 aient été écrits comme un recueil unique, complet, à être utilisé en étant un ensemble. Et chaque psaume a pour thème commun la suprématie ou la souveraineté de Dieu. Et chaque psaume a son sujet propre. Par exemple, le psaume 95 affirme la divinité de Dieu et son pouvoir sur toute la nature, et exhorte son peuple à le servir. Dans le psaume 96, toutes les nations sont exhortées à se joindre à son service, car il vient pour juger l'humanité. Dans le psaume 97 que nous allons voir ce matin, Dieu règne sur le monde entier. Les idoles sont abandonnées, le juste est glorifié. Dans le psaume 98, Dieu a accompli des merveilles et il a opéré la délivrance de son peuple. Il s'est souvenu de sa miséricorde envers la maison d'Israël, et il vient pour juger le monde entier. Dans le psaume 99, Dieu règne sur le monde entier. Et dans le psaume 100, le monde entier est appelé à louer Dieu le Créateur, dont la miséricorde et la vérité sont éternelles. Alors je vous invite maintenant à ouvrir nos Bibles dans le psaume 97, et nous allons le lire ensemble. L'Éternel règne. Que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Les nuages et l'obscurité l'environnent, la justice et le droit forment la base de son trône. Le feu marche devant lui et embrase de tous côtés ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde, la terre le voit et tremble. Les montagnes fondent comme de la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Le ciel proclame sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Ils sont couverts de honte, tous ceux qui servent les sculptures sacrées, qui se vantent de leurs faux dieux. Que tous les dieux se prosternent devant lui. Si on l'entend et se réjouit, les villes de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements éternels. Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut qui domine toute la terre, tu es bien au-dessus de tous les dieux. Vous qui aimez l'Éternel, ayez le mal en horreur. Il garde ses fidèles, il les délivre des méchants. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez sa sainteté par vos louanges. Et avant de continuer, je vous propose de prier. Notre Dieu, merci encore pour ce psaume que tu nous donnes à méditer ce matin. Et nous voulons te prier que tu puisses nous assister de ton Saint-Esprit et parler directement à nos cœurs par ta parole. Amen. Alors nous allons voir dans ce psaume ce matin que la très bonne nouvelle du règne de Dieu doit nous apporter de la joie, de la crainte, et doit nous encourager à le mettre en premier et à rejeter le péché. Alors j'aimerais commencer par vous poser une question. Quelle serait pour vous la meilleure nouvelle qu'on puisse vous annoncer qui vous ferait sauter de joie? Est-ce que ce serait de trouver un nouveau travail, le poste que vous avez toujours voulu avoir? L'achat d'une nouvelle maison? Est-ce que ce serait partir en vacances pour une destination dont vous rêviez depuis longtemps? De pouvoir créer votre entreprise, de décrocher un gros contrat? Est-ce que ce serait l'attente d'un enfant dans votre famille? la réussite de l'un de vos enfants à un examen, ou votre propre réussite à un concours, un mariage à venir. Ces nouvelles, ces situations, bien sûr, sont source de joie dans notre vie, et nous devons les prendre comme des bénédictions de la part de Dieu. Et dans le psaume que nous avons lu ce matin, le psalmiste nous invite à être dans l'allégresse. L'allégresse est un terme qui est encore plus fort que la joie. Elle s'exprime extérieurement selon la définition du Larousse. Je suis allé la retrouver dans le Larousse. Et le Larousse nous dit qu'elle est souvent exprimée par des sourires, des rires ou des éclats de joie, liés à des moments de réussite, de retrouvailles ou d'accomplissement. Et elle évoque un sentiment de bonheur ou d'euphorie partagée lors d'événements heureux. Elle est donc visible, elle est palpable et elle ne passe absolument pas inaperçue. Et alors pourquoi le psalmiste nous invite à être dans l'allégresse ? Eh bien tout simplement parce que l'Éternel règne. Parce que Dieu est aux commandes, parce qu'il a tout pouvoir. Il invite tout le monde à se réjouir pour cette bonne nouvelle, que la terre soit dans l'allégresse. Même les endroits les plus reculés de la terre sont invités à se réjouir, et le psalmiste inclut tout le monde et invite chacun à se réjouir du règne de Dieu. Alors la question que l'on pourrait se poser est de savoir, mais qui est ce Dieu qui règne ? Comment est-il ? Est-il un Dieu rigide ? Froid, distant, qui ne s'intéresse pas à nous ? Est-ce un Dieu narcissique au point de penser qu'à lui ? Ou est-ce un Dieu qui est élitiste et qui ne choisit que les meilleurs d'entre les humains ? Qui est-il et que pouvons-nous apprendre sur lui ? Et que nous dit le psalmiste sur lui ? Eh bien, le psalmiste nous dit que c'est un Dieu qui est au-dessus de tout. Et dans le psaume, il écrit « Les nuages et l'obscurité » l'environne. Dieu nous est présenté dans la Bible dès l'Ancien Testament comme un Dieu saint et inaccessible pour l'homme à cause du péché, que les hommes ne peuvent pas trouver par eux-mêmes. Et dans le livre de l'Exode, après l'épisode du veau d'or, quand Dieu renouvelle son alliance avec le peuple d'Israël, Moïse, à un moment donné, demande à Dieu de voir sa gloire. Et Dieu lui répond la chose suivante, dans Exode 33. « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce, et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. » Et il ajouta, « Tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Dieu est bien au-dessus de nous. Et la réalité nous rattrape quand nous désirons nous approcher de lui. Le péché nous sépare de lui, et si nous le voyons dans sa gloire telle qu'il est, eh bien, nous ne pourrions pas le supporter et nous mourrions instantanément. L'apôtre Paul exprime un petit peu cette même idée dans l'Épître aux Romains, dans Romains 11, versets 33 à 36. Il exprime l'idée plutôt qu'il nous est impossible de comprendre Dieu. Et il écrit « Quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu ?» Que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller ? Qui lui a donné le premier pour être payé en retour ? Nous avons souvent tendance à réduire Dieu pour qu'il puisse rentrer dans ce que nous concevons de lui, avec nos pensées, nos raisonnements limités. Nous aimerions parfois le contrôler, le faire rentrer dans nos petites cases, dans une petite boîte, pour nous rassurer, nous dire « C'est bon, je comprends qui est Dieu. » Mais Dieu sort totalement de nos modes de pensée, de réflexion. Et preuve en est, combien de fois nous avons pu constater dans nos vies que quand nous faisons appel à lui dans des situations précises, on espère qu'il puisse répondre de telle ou telle manière, et finalement sa réponse est systématiquement différente et la plus appropriée. Donc Dieu est un Dieu au-dessus de tout. Et le psalmiste nous dit que c'est également un Dieu qui est un Dieu tout-puissant. Et le psalmiste nous décrit une scène qui nous rappelle fortement le passage dans Exode 19, quand Dieu a convoqué son peuple au pied du mont Sinaï pour faire alliance avec lui pour lui donner ses commandements. Alors, le psalmiste écrit « Les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice et le droit forment la base de son trône. Le feu marche devant lui et embrase de tous côtés ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde. La terre le voit et tremble, les montagnes fondent comme de la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. » Et si on va dans le livre de l'Exode, au verset 16 à 18, on peut lire « Le matin du troisième jour, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut épouvanté. Moïse fit sortir le peuple du camp pour aller à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. » Alors quand vous êtes en montagne et que le ciel s'obscurcit, que vous voyez arriver l'orage et que vous n'avez pas de solution pour vous abriter, à part une tente, mais à ce moment-là, je ne pense pas qu'elle soit très utile contre la foudre, c'est déjà très impressionnant. Je l'avais déjà vécu quand j'étais en camp d'ado, et c'est vrai qu'on était bien contents, on a prié aussi pour remercier le Seigneur quand on a vu que l'orage passait tout autour du camp, et finalement on n'était pas passé au-dessus de nous quand on était en bivouac dans la montagne. Et quand vous voyez un éclair qui tombe, suivi 2 secondes après d'un grand grondement impressionnant, ben vous savez que là, l'orage est tout près. Et même à l'abri chez soi, on ne se sent pas toujours tranquille. Et pourtant, cela n'a rien à voir avec ce que le psalmiste décrit de Dieu dans ce psaume, ou ce que le peuple d'Israël a pu voir près du mont Sinaï. Et si finalement on se met dans les sandales des Israélites qui étaient à ce moment au mont Sinaï, j'imagine que le spectacle devait être à la fois grandiose et effrayant, avec ces montagnes qui tremblent, le tonnerre, la fumée et le feu dans lequel Dieu était présent. Le psalmiste va jusqu'à décrire que les montagnes fondent comme de la cire devant lui. Est-ce que l'on peut imaginer le Mont Blanc, le Mont Everest, le Mont Kilimandjaro fondre comme vous avez une petite bougie qui fond au milieu de la table comme de la cire? Et pourtant, c'est ce que la Bible nous dit ce matin. C'est l'effet de la puissance de Dieu qui est décrite dans ces termes. Et le psalmiste continue à nous décrire ce Dieu qui règne. Un Dieu glorieux et juste qui se révèle dans sa création. Le psalmiste nous décrit Dieu comme étant au-dessus de tout. Puissant, mais également juste. Et je trouve que c'est très rassurant pour nous. Car une personne puissante ayant tout pouvoir, mais complètement insensée et dangereuse, ce serait quelque chose d'effrayant. Mais ce n'est pas du tout la description que nous avons dans la Bible de Dieu. Nous trouvons au contraire un Dieu rempli d'amour, un Dieu juste qui ne tolère pas le péché. L'Éternel est lent à la colère, riche en bonté. Il pardonne la faute et la révolte, mais il ne traite pas le coupable en innocent, nous dit le livre de Nombres. Il ne considère pas que le péché soit quelque chose de banal, quelque chose que l'on peut ignorer. Et en même temps, il a prouvé par Jésus-Christ à la fois sa justice, son amour, parce que Christ a payé de sa vie à la croix pour nos péchés. Et par son amour, eh bien, il l'a payé à notre place, parce que nous aurions dû être à cette place. Et le premier témoin de la justice et de la gloire de Dieu, visible par tous, est tout simplement sa création. Le ciel proclame sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Alors quand on voit la création de Dieu, sa beauté, eh bien nous devrions tout simplement être amenés à nous questionner, à reconnaître Dieu qui est derrière tout cela. Et c'est ce que Paul un petit peu nous explique aussi dans l'Épître aux Romains, quand il parle des hommes pécheurs, il dit qu'ils sont inexcusables puisqu'à travers la création, ils devraient voir Dieu. Et un homme connu, français, qui se nomme Voltaire, écrivait la chose suivante. « L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger. » Dieu qui est tout-puissant, au-dessus de tout, qui est capable de faire fondre les montagnes comme de la cire, glorieux et juste, règne. Tout le monde, absolument tout le monde, peut le voir à travers sa création. Est-ce que le fait que Dieu règne est une bonne nouvelle pour nous ce matin ? Est-ce que c'est la meilleure nouvelle qui soit ? Ou est-ce que l'on a remplacé cette merveilleuse nouvelle par une autre qui nous semble meilleure ? Et on arrive à notre deuxième point, c'est que Dieu n'accepte aucun rival. Et le psalmiste nous avertit. Ils sont couverts de honte tous ceux qui servent les sculptures sacrées, qui se vantent de leur faux dieu, que tous les dieux se prosternent devant lui. Lorsque Dieu a fait alliance avec son peuple sur le mont Sinaï, le premier commandement qui lui a été donné est le suivant. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Et dans Deutéronome 6, au verset 4, Dieu dit à son peuple, « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. » Dieu a libéré son peuple de l'esclavage pour qu'il puisse l'adorer en toute liberté et non pour que son peuple se contraigne à adorer des idoles, faites de bois et de métaux qui sont sans puissance, sans effet et qui finiront tôt ou tard par nous décevoir. L'alliance de Dieu avec son peuple repose sur une relation exclusive. Dieu demande à son peuple de l'aimer de tout son cœur. Et Dieu s'engage exclusivement envers son peuple Israël. Et il demande également la même réciprocité des cœurs envers lui. Et il le dit lui-même, Dieu est un Dieu jaloux. Il ne tolère pas qu'on puisse le remplacer par quelque chose d'autre qu'on ne peut comparer à lui et qui est beaucoup moins puissant que lui et qui finira par nous enfermer et nous maintenir dépendants et qui nous décevra profondément. La définition de l'idolâtrie, c'est de remplacer Dieu par autre chose à laquelle on attache plus d'importance et en devenir dépendant. Il ne nous a pas libérés du péché pour en redevenir dépendants, mais il nous a délivrés du péché pour que nous soyons réellement libres. Et l'idolâtrie, quand on regarde aussi dans Osée, au chapitre 2, est considérée comme abominable par Dieu. Elle est même considérée, Osée va très loin dans ce qu'il écrit, elle est considérée comme un adultère vis-à-vis de Dieu. Et si l'idolâtrie se matérialisait au temps de l'Ancien Testament par des idoles faites de bois et de métal, eh bien dans le Nouveau Testament, Paul, en visitant Athènes, a été surpris de voir comme la ville débordait d'images de ces dieux. Sur chaque place publique, on pouvait trouver Aphrodite, la déesse de la beauté, Arès, le dieu de la guerre, Artémis, la déesse de la fécondité et de la richesse, Héphaïstos, le dieu des artisans. Et si jamais vous souhaitez approfondir le thème de l'idolâtrie, je vous conseille aussi l'excellent livre de Timothy Keller, qu'il a écrit à ce sujet, Les idoles du cœur, où il aborde énormément ce sujet-là, de manière très approfondie. Et il aborde quelques notions aussi que j'ai reprises pour cette deuxième partie. Finalement, notre société contemporaine n'est pas tellement différente. On ne se prosterne pas devant la statue Aphrodite, mais de nombreuses personnes sont poussées à la dépression et aux troubles alimentaires par un souci obsessionnel de leur image. On ne brûle pas d'encens devant l'image d'Artémis, mais quand l'argent et la carrière prennent une trop grande importance, eh bien le risque est grand de sacrifier nos familles, nos enfants, pour en arriver en haut de l'échelle financière et professionnelle. Nous n'avons pas de temple avec des statues, mais nous possédons des gratte-ciels, nous possédons des spas, des salles de fitness, des studios, des stades, des lieux où certains sacrifices doivent être opérés pour obtenir, entre guillemets, un bien ultime. Et un journaliste américain du nom de David Brooke, suite à un scandale politique, a conclu que nous produisons de nos jours une classe d'individus qui sont très performants sur le plan professionnel, mais totalement déséquilibrés sur le plan personnel. Nous ne savons plus entretenir de relations profondes et réelles avec les membres de nos familles et nos amis. Et beaucoup de personnes sacrifient tout odieux succès avec des conséquences dévastatrices. Rupture familiale, scandale pour certains, suivi d'un grand vide intérieur. Et Timothée Keller de conclure, les dieux étaient jadis assoiffés de sang et difficiles à apaiser, et ils le sont toujours. Le problème, c'est que le cœur humain est une fabrique à idoles. Et Dieu, par l'intermédiaire d'Ézéchiel, a parlé en ces termes du peuple d'Israël. Ces gens-là portent leurs idoles en leur cœur. Le cœur humain a tendance à prendre de bonnes choses voulues par Dieu et à les transformer en biens suprêmes, à absolument posséder, au risque de passer à côté du bonheur. Nos idoles peuvent être notre famille, nos enfants, notre carrière, notre réussite financière, notre réputation, ou bien alors une relation romantique. Ça peut être nos compétences, notre sécurité, une cause politique, une cause sociale, une cause morale. Et nous devons aussi faire attention parce que même notre service au ministère dans l'Église peut devenir une idole et personne n'en est à l'abri. Alors comment reconnaître une idole dans notre vie ? Une idole, c'est tout ce qui est plus important que Dieu dans notre vie, tout ce qui captive notre imagination, tout ce qui remplace les biens que seul Dieu peut nous donner. On la reconnaît de la manière suivante, elle contrôle notre cœur de telle manière que l'on y consacrerait toute notre énergie, notre passion, toutes nos ressources financières et émotionnelles sans y réfléchir à deux fois. Et si on la perd, eh bien notre existence cesse d'avoir un sens. C'est un vide profond et le désespoir qui s'installe. Nous pensons vivre dans un monde de moins en moins religieux, pas même au XXIe siècle. Eh bien, dans ce XXIe siècle, beaucoup d'idoles désirent leur place dans notre cœur. Et je ne suis pas sûr que nous pouvons dire que dans notre vie, il n'y a pas d'idole. Parce que bien souvent, elles se cachent de manière sournoise. Et même, malheureusement, parmi les plus grands serviteurs de Dieu que la Bible cite, Dieu a dû œuvrer dans leur vie pour détrôner les idoles. Et pour sortir de ces impasses, nous devons discerner les idoles de notre cœur, mais également de notre culture. Et le seul moyen que nous avons pour en être délivrés, eh bien, c'est tout simplement de nous tourner vers le seul vrai Dieu. C'est de nous tourner vers Jésus-Christ qui a tout simplement obtenu la victoire à la croix, sur le mont du Calvaire, qui peut vraiment nous pardonner si nous échouons. Et c'est le seul qui peut nous satisfaire pleinement. Et au verset 8 du psaume 97, le psalmiste écrit « Si on l'entend et se réjouit, les villes de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements éternels. Car toi, l'Éternel, tu es le Dieu très haut qui domine toute la terre, tu es bien au-dessus de tous les dieux. » Alors pourquoi le peuple de Dieu se réjouit ? À cause des jugements et des décisions de Dieu. C'est la soumission à Dieu qui est au-dessus de tout, qui nous donne la vraie joie. Et on en arrive à la troisième et dernière partie. Quelle devrait être notre attitude ? Et je vous invite à relire à partir du verset 10, la fin du psaume 97. Vous qui aimez l'Éternel, ayez le mal en horreur. Il garde ses fidèles, il les délivre des méchants. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez sa sainteté par vos louanges. Alors, quand on va à Paris, par exemple, pour se déplacer, bien souvent, on utilise le métro. Et il y a des millions de personnes qui passent par le métro, qui sont de tout âge, de toute condition physique. Vous pouvez trouver des bébés, des femmes enceintes, des personnes âgées, des personnes à mobilité réduite, mais également des jeunes, des personnes en bonne santé. Et par rapport au nombre de personnes pouvant passer par le métro au quotidien, finalement, le nombre d'accidents qu'il peut y avoir reste extrêmement faible. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les personnes ont conscience du danger. Et elles font, pour la très grande majorité d'entre elles, très attention. Par exemple, de ne pas s'approcher trop près du quai à l'arrivée du métro. Elles font attention à la fermeture automatique des portes lorsqu'elles montent ou lorsqu'elles descendent du métro. Elles font attention de bien se tenir lorsque le métro circule ou alors de rester bien assis. Ou alors dans les escalators aussi, on fait très attention à chaque fois qu'on prend un escalator, qu'on le quitte de là où on met notre pied pour ne pas tomber, pour ne pas trébucher. Et quand on a conscience du danger, eh bien on reste alors sur nos gardes, on redouble d'attention pour éviter qu'il nous arrive quoi que ce soit. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Hébreux, écrit la chose suivante. « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » Sommes-nous conscients du péché qui nous enveloppe si facilement et qui nous entoure? Un petit peu à l'image des personnes qui prennent le métro et qui peuvent être conscientes aussi du danger quotidien qu'elles peuvent avoir lorsqu'elles prennent ce moyen de locomotion. Le psalmiste nous invite à avoir le mal en horreur. Cela pose la question de savoir si on est conscient du péché qui nous entoure, mais également de savoir si on ne minimise pas le péché ou si on ne s'en accommode pas et si finalement on ne s'y habitue pas au point de ne plus le voir ou de se dire que finalement c'est peut-être pas si grave. Quand j'étais petit, j'étais assez frappé parce qu'il y avait un prédicateur dans l'église de mon enfance qui a raconté la chose suivante. Il y a une grande avenue dans Belfort qui s'appelle l'avenue Jean Jaurès. Et puis, il s'arrêtait régulièrement pour prendre son pain dans une boulangerie. Et cette boulangerie s'appelait « Au péché mignon ». Alors, ça nous fait sourire, parce que forcément, on pense aux pâtisseries, on pense à tout ce qu'on apprécie. Et c'est vrai que cette expression « Au péché mignon » est rentrée aussi dans notre langue française, dans notre culture. Mais ce qu'il soulignait dans sa prédication, et ça m'avait frappé, c'est qu'il a dit « Mais comment peut-on mettre mignon à côté du mot péché ?» Il a fait aussi la remarque à la boulangère. Est-ce que nous avons le péché en horreur au point parfois d'être dégoûtés par les réactions que nous avons ? Et est-ce qu'il nous arrive aussi de pleurer sur notre propre péché dans nos vies ? Quand nous prenons conscience de notre péché, nous pouvons plus facilement le combattre, mais surtout, nous pouvons en appeler à Dieu, qui est celui qui règne, qui a vaincu le péché par son Fils Jésus-Christ à la croix. C'est celui qui garde ses enfants et qui les délivre du danger. Dieu règne et Dieu protège ceux qui lui appartiennent. Et quand nous laissons Dieu nous éclairer sur notre véritable nature de pécheur, cela produit tout simplement la joie. La joie d'être pardonné, la joie d'être réconcilié avec Dieu qui est si saint, la joie d'avoir part à la vie éternelle, à son règne, à l'espérance de pouvoir le voir un jour tel qu'il est, chose que nous ne pouvons pas encore ici bas sur terre, dans notre condition d'humain faillible. Nous sommes invités à voir le mal en horreur, à laisser Dieu nous éclairer, à nous réjouir en lui, et à le louer et à l'adorer pour sa sainteté. Alors pour conclure, eh bien, je dirais que nous avons vu ce matin dans ce psaume que la meilleure nouvelle qui soit, c'est que Dieu règne, qu'il est un Dieu au-dessus de tout, puissant, glorieux, juste, et qui se révèle à chacune, à chacun, notamment par le moyen de sa création. Nous sommes alors invités à nous soumettre à ce Dieu, à lui laisser la première place dans notre vie et à considérer le péché tel qu'il est, en le considérant comme quelque chose d'horrible. Car le péché produit tout simplement la mort. Et c'est pour cela, parce qu'il produit la mort, que Jésus-Christ s'est livré lui-même à notre place à la croix, afin de nous délivrer du péché qui nous entoure si facilement, pour que nous puissions nous réjouir réellement en Dieu et nous placer sous sa divine protection.